Eh bien, bonsoir à tous. Certaines venues marquent plus que d'autres. Je me rappelle l'arrivée de notre deuxième enfant, Paul. C'était un soir de février. Plus tôt dans la journée, Chloé, mon épouse, a été admise à l'hôpital. Et après plusieurs heures de travail, je reçois sa bénédiction en quelque sorte pour aller manger enfin un petit moment. La sage-femme et Chloé me rassurent, il y en a encore pour quelques temps. Du coup, je pars en quête de quoi me sustenter et je trouve une pizzeria, je commande ma pizza. Seulement 10 minutes plus tard, mon téléphone sonne, je décroche. Monsieur Lang, où êtes-vous? Il faut revenir, ça y est, il arrive. Je prends ma pizza, je saute dans la voiture, je commence à manger. Bien sûr, la pizza est brûlante, je me brûle le palais. Et j'arrive à l'hôpital, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en entrant dans la salle d'accouchement, j'entre en intention. Ah, je me suis fait super mal. Et là, Chloé et la sage-femme me regardent avec des yeux comme ça. Je pense que les mamans dans l'assemblée peuvent compatir. Bref, cette annonce de la venue de la naissance de Paul m'a permis de réaliser mon besoin de revenir à l'hôpital pour vivre ce changement énorme dans ma vie, pour laquelle j'étais principalement un spectateur. J'avais peu, rien contribué. Et certes, la venue d'un enfant est un moment décisif qui change la vie. Mais d'après Marc, l'évangéliste, la venue de Jésus est un moment plus décisif encore qui change l'histoire de l'humanité et qui nous concerne tous. Noël n'est pas seulement la célébration d'une naissance d'un petit bébé, mais c'est la célébration d'un moment décisif pour l'humanité. Là aussi, l'annonce de sa venue nous aide à réaliser notre besoin de revenir à lui pour vivre un changement auquel nous ne contribuons rien. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets qui vont s'afficher à l'écran. Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. » En fait, ces deux versets nous parlent d'une annonce et d'une réponse. Une annonce et une réponse. Et si vous voulez, pour situer un peu le contexte de cette phrase de Jésus, elle se situe au tout début de l'évangile de Marc, qui est une des quatre biographies de la vie de Jésus. Et c'est un peu sa première conférence de presse qui lance son ministère. C'est le démarrage de ce qu'il va faire, la déclaration d'intention de Jésus. Et cette déclaration, elle a le mérite de nous expliquer pourquoi la venue de Jésus est un moment clé, décisif de l'histoire. Quand les chrétiens ont commencé à parler du message de Jésus, ils ont utilisé un mot qu'il nous faut faire l'effort de comprendre. Ce mot, il est présent dans ce texte, sous nos yeux. Il s'agit du mot « évangile ». Évangile qui a été traduit ici « bonne nouvelle ». C'est quoi l'évangile? Eh bien déjà, j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas d'un mot chrétien. Ce n'est même pas un mot qui est issu du jargon religieux de l'époque. D'après les experts, le mot « évangile » c'est la déclaration publique et universelle d'un changement objectif de la réalité qui apporte une grande joie. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la déclaration publique et universelle d'un changement objectif de la réalité qui apporte beaucoup de joie. Et à l'époque, ce mot était en fait utilisé pour décrire le changement, par exemple, d'un règne impérial. L'empereur envoyait dans tout l'empire des émissaires qui publiaient un évangile, la bonne nouvelle de l'annonce du règne du nouvel empereur. Et l'évangile, si vous voulez, c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, quand Aragorn et ses acolytes affrontent et remportent la victoire finale contre le Mordor, qui est la figure du mal dans cette œuvre. À ce moment-là, tous ceux qui sont dans la joie parce qu'ils sont mis au bénéfice de ce moment décisif de la victoire d'Aragorn le roi. Même s'ils n'ont pas combattu eux-mêmes, tous sont mis au bénéfice du moment décisif de cette victoire triomphante, éclatante du roi. Si vous voulez, l'évangile, c'est comme l'arrivée de Paul, alors que j'ai rien contribué. Pas grand-chose, je bénéficie de ce changement qui m'apporte beaucoup de joie. Et c'est ça l'évangile, c'est la déclaration, l'annonce publique et universelle d'un changement objectif de la réalité qui apporte une grande joie. Alors peut-être dans notre texte, ce mot « royaume », il vous intrigue un peu. Le royaume dans la Bible, il ne s'agit pas d'un règne politique, il ne s'agit pas d'une théocratie. En fait, ce mot « royaume », il est plutôt synonyme de la vie qu'on rêve tous d'avoir. Parce qu'en fait, on rêve tous un petit peu de changement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est ce que Google m'a suggéré cette semaine en me présentant dans un fil d'actualité le rêve de Christine. Christine a 40 ans dans cet article que j'ai reçu. Elle est devenue nomade digitale avec sa famille. Après une crise de la quarantaine, tout a basculé avec son mari. Ils ont décidé de partir et de vivre partout ailleurs dans le monde, sans attache. Elle rêvait de changement. Regardez encore ces personnes qui décident de construire, de vivre et partir la van life. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la van life ? Oui, je vois quelques têtes qui hochent. Ce sont ces personnes qui ont, sont en fait transformé le camping-car ringard de papy en van trop cool pour vivre partout et sillonner les routes de France et de Navarre. Ou encore, regardez ces cadres d'entreprise qui n'en peuvent plus de travailler dans leur open space, travailler sans vraiment savoir où va le monde et qui décident finalement de tout plaquer et laisser tomber ces open space pour redémarrer à zéro dans un travail artisanal. Souvent, qui quittent parfois un petit peu après parce qu'ils se rendent compte que finalement, la vie d'artisan, c'est difficile. Voyez ? Ah, c'est cette femme, ces adeptes de la van life, ces cadres qui rêvent d'autre chose, de mieux, de plus, de changer, de régime de vie. Finalement, ils aspirent à un changement de règne. Pourquoi on veut changer ? Pourquoi vous voulez changer ? Eh bien, ce besoin de changement, c'est pas juste un constat que ma vie est ennuyante et qu'on aurait plus de fun à faire autre chose. En fait, ce besoin de changement provient du fait que, malheureusement, dans nos couples, ça ne va pas toujours. Même ça ne va pas toujours au point qu'on se sépare, en laissant ce sentiment d'échec et d'abandon qui en suit. Ce besoin de changement provient en fait des choses qui sont faites en secret qu'on n'oserait même pas à révéler à un ami proche. Ce besoin de changement provient du constat qu'élever nos enfants, c'est difficile et ça nous renvoie à nos limites et à notre égoïsme. Ce besoin de changement provient de ce sentiment profond que le monde dans lequel on vit n'est pas si sécure et que ça va être difficile, qu'on va peut-être vers des choses plus difficiles et qui nous donnent très peu d'espoir. Ce besoin de changement, en fait, il traduit un problème plus profond. Un problème plus profond dans lequel on est tous embourbés, que la Bible appelle le péché. Est-ce que ça fait un peu écho avec nous ? Si oui, alors l'annonce de Jésus, elle arrive au bon moment. Le démarrage de ce règne public, eh bien Jésus propose ni plus ni moins qu'un changement. Un changement est possible à cause de l'identité de celui qui propose ce changement. Qui est donc Jésus ? Eh bien, c'est le tout premier verset de cet évangile de Marc qui nous le répète, qui nous le révèle en nous disant qu'il s'agit ici dans cet évangile du commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ou si vous préférez, commencement du règne public et universel qui apporte un changement objectif de la réalité et beaucoup de joie, commencement du règne de ce Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Vous savez quoi ? La garantie de réussite de ce changement ne vient pas de la recette utilisée. En fait, beaucoup de personnes expérimentent des changements en utilisant différentes techniques. La garantie de réussite de ce changement, je suggère, ne vient pas de la méthode, mais de la source de celui qui apporte le changement. En fait, Jésus n'est pas un autre gars qui vous dit « faites comme moi et votre vie va changer ». Il y en a qui ont essayé et ils ont échoué. Moi, j'ai jeté toutes mes fringues à la poubelle comme Marie Kondo me l'avait demandé et je ne suis toujours pas plus heureux. Alors j'ai repris les choses en main, je suis allé faire un régime et j'ai fait du sport. Malheureusement, quand je me regarde dans la glace, je ne suis toujours pas à la hauteur de mes espérances. J'ai beaucoup lu, j'ai lu de la philosophie, je me suis intéressé à des religions, j'ai même commencé à étudier le stoïcisme. Mais en fait, je me rends compte que j'en sais toujours pas assez. Tous ces régimes, toutes ces méthodes, toutes ces philosophies ou religions du self-help, elles ont tout un point commun. C'est que ces philosophies nous mettent au centre de la réussite du projet de changement. Et si vous et moi, nous ne réussissons pas, eh ben c'est la preuve de quoi ? C'est la preuve que c'est nous, l'échec. On est embourbé dans ce que la Bible appelle le péché. Or, que dit Jésus ici ? Le moment est arrivé. Le règne de Dieu s'est approché à Noël. Qui met en place ce changement ? Ben, c'est Jésus, c'est lui, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Nous n'y contribuons rien. Le changement est possible parce que l'Évangile n'est pas une autre de ces techniques de changement et de bien-être, mais à cause de la source de celui qui amène ce changement. Il est celui qui accomplit ce changement et nous n'y contribuons rien. Et dans la suite de cet Évangile, on le voit en fait chasser le mal, purifier les gens qui se sentent impurs et honteux. Il intervient pour guérir des malades, démontrant ainsi sa puissance sur les trois M qui nous pourrissent dans la vie, le mal, le malheur et la maladie. Mais surtout, il vient régler de manière magistrale notre problème numéro un, le péché, en venant vivre une vie innocente et en mourant à la croix pour pouvoir nous purifier. Repartir de cette fête de Noël avec Jésus, ce n'est pas seulement ressentir la joie et la paix d'avoir célébré cette fête, mais c'est repartir avec une conscience purifiée et la perspective d'un nouveau départ dans la vie. Comment se fait-il que Jésus peut faire tout ça ? Eh bien, comme tout bon épisode, et là j'ai un peu peur d'avouer de prendre un grand moment de solitude, mais... voilà, c'est un peu comme un épisode du détective Columbo. Et là, peut-être ça ne parle pas à tout le monde. Mais dans les épisodes du détective Columbo, en fait, à chaque fois, on nous révèle au début de l'épisode le coupable pour nous montrer ensuite comment Columbo va arriver à la conclusion. Et bien pareil avec l'évangile de Marc, si Jésus peut réellement amener un changement objectif de notre réalité, c'est parce qu'il est présenté, comme le texte nous le dit, comme le véritable sauveur du monde, qui est représenté ici par le terme Christ, pas un autre gourou, pas un exemple de moralité à suivre, pas un simple maître de philosophie, mais le véritable Fils de Dieu qui vient mettre un terme à notre plus grand problème dans la vie. Il vient pour combattre à notre place tout ce qui nous pourrit la vie. Il annonce le changement de règne. Et c'est le moment décisif de l'histoire pour commencer un changement de vie que nous désirons tous. Et la question qui demeure pour nous, c'est comment enclencher ce changement ? Comment répondre à cette annonce ? Eh bien, je pense que vous avez tous déjà reçu une invitation à un mariage. Alors, c'est devenu à la mode d'envoyer un email quelques mois avant... d'envoyer un faire-part « Save the date ». En général, quand on a reçu le mail « Save the date », on reçoit quelques temps plus tard un carton d'invitation avec un faire-part avec la mention « RSVP ». Répondez s'il vous plaît. Un changement objectif va intervenir. Lui et elle vont se marier. Vous êtes invités. RSVP. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Ils annoncent que son règne public et universel a démarré et il nous faut répondre. Comment ? Eh bien, ce sont les deux impératifs à la fin de notre verset qui nous donnent en fait la clé pour savoir comment répondre. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins qu'un double examen. Un examen de soi et un examen du message de Jésus. Examinez-vous et examinez ce message. Voilà en substance ce que dit Jésus ici. Et j'en termine avec ça. Examinez pour voir si vous avez besoin d'entrer sous ce règne. Vous pouvez maintenant reconnaître ce moment décisif dans l'histoire de l'humanité, cet avènement du règne de Jésus, tout simplement en pliant le genou devant lui et en lui demandant de devenir le centre de votre existence. Jésus n'est pas un sage, il n'est pas un philosophe, un exemple de moralité, mais il est un roi, un Christ, le Fils de Dieu. Et ça, c'est la garantie du succès, du changement qu'on rêve tous. Venir dans son royaume est un moment décisif. Repartir de cette fête avec Jésus, c'est pas seulement ressentir de la joie et de la paix pour avoir célébré Noël, c'est repartir réellement avec une conscience purifiée et la perspective d'un nouveau départ dans la vie. Et ça demande du courage. Ça demande du courage. Admettre ses faiblesses, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais ici, dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait. Et si vous parlez avec eux, après, lors d'un temps du buffet froid, vous pourrez voir pourquoi, quand ils ont examiné leur vie, quand ils ont examiné ce message de la bonne nouvelle de Jésus, pourquoi ils en sont arrivés à le faire entrer dans leur vie et à le mettre à leur première place. Personne ne vous dira « c'est la honte que tu aies eu besoin de Jésus ». Parce que beaucoup dans cette salle savent qu'ils avaient besoin de Jésus. Et quand Jésus est intervenu, leur vie a changé. Examinez-vous et examinez son message. Prenez le temps de partir avec la Bible qu'on est très heureux de vous offrir pour découvrir un peu plus de cet évangile de Marc. Voilà, ça prend quelques minutes, peut-être 30 minutes. Et Noël, les temps de Noël, c'est l'occasion de ralentir un peu et de prendre du temps pour lire cet évangile et vérifier pour vous-même quelle est la bonne nouvelle. Interrogez les témoins oculaires. Vérifiez pour vous-même avec les historiens de l'époque comme Tacite, comme Suétone, comme Flavius Joseph, que l'histoire de Jésus n'est pas un « il était une fois », mais un grand moment de l'histoire avec un grand H. Les meilleurs spécialistes vous le diront, la tradition des manuscrits du christianisme est fiable. Et si on ne part pas avec l'a priori philosophique que les miracles n'existent pas, alors nous avons sous nos yeux un message bouleversant qui peut changer notre lendemain et qui changera notre janvier 2022. L'annonce de la venue de Jésus nous permet de réaliser notre besoin de revenir à lui pour vivre un changement auquel nous ne contribuons en rien. Et nous pouvons faire cette démarche dès ce soir en venant à lui. J'aimerais prier pour terminer. Voilà, mon Dieu, des choses qui peuvent peut-être nous surprendre ce soir, des choses que nous découvrons, qui sont nouvelles pour nous. Et je prie qu'on ne soit pas sous un sentiment d'être submergé par tout ce qu'on vient d'entendre, mais qu'au contraire, le focus de ce message, la personne de Jésus, puisse être maintenant ce qui nous captive, ce qui nous interroge, ce qui nous intéresse. Je prie que nous puissions avoir une meilleure compréhension de qui il est, de pourquoi le commencement de ce règne est important. Et plus encore, je prie pour que chacun, chacune, croyant ou non, nous puissions répondre en nous examinant nous-mêmes et en examinant plus profondément ce message afin qu'il nous change. Amen.